Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. La folie est-elle vraiment le propre de l'homme? C'est la question que nous posons ce matin. Les animaux souffrent-ils des mêmes pathologies psychiatriques que les animaux humains que nous sommes? Les chiens peuvent-ils souffrir de dépression? Les canaris enfermés dans leur cage de neurasthénie? Que penser de ce chien qui tente d'attraper sa queue sans raison objective? De ce chimpanzé qui semble frapper de comportements qui ressemblent fortement à la bipolarité? Quelles sont les folies qui nous sont communes et celles spécifiques aux animaux? Dans quelle mesure sommes-nous la source de leur dérèglement psychique? C'est également l'occasion ce matin de s'interroger sur la notion de folie. Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Vous retrouvez bien évidemment les questions pertinentes de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Ali, je crois qu'on va mettre les animaux sur le divan aujourd'hui.
Oui, bah oui, avec Christophe en plus dans le studio. Bonjour Christophe.
Bonjour Ali.
Médecin psychiatre, un mardi sur deux dans Grand Main vous fasse, et dont le chien préféré s'appelle Dingo. Hein
bah oui, on peut dire ça.
Quel est le menu de vos choses vues?
Bah alors, je sais que le sujet du jour, c'est la folie animale, mais bon, je suis psychiatre, alors je vous parlerai plutôt d'un sujet que je connais mieux, c'est la folie humaine, mais la folie humaine tournée vers les animaux.
J'aime bien votre côté droupi, Christophe André. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Au fond, le fou, c'est quelqu'un qui a été vu avant, si vous voulez, d'être entendu. Or, dans toutes ces recherches sur la folie, il y avait toujours une chose qui manquait. Jamais on n'écoutait ce que le fou pouvait dire. On n'avait pas du tout l'idée que dans le discours du fou pouvait se cacher l'essentiel de la folie. Or, c'est bien pourtant à partir du discours du fou que l'on fait le partage. Le fou, c'est pas celui qui se reconnaît à première vue. C'est celui qu'on reconnaît à première entente, en quelque sorte.
La folie selon Michel Foucault en 1973. Bonjour Michel Kreutzer.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes éthologue, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre, où vous avez dirigé le laboratoire d'éthologie, et vous publiez aux éditions Le Pommier un livre formidable, Folies animales, avec une belle couverture, un éléphant qui fait le foufou sur sa trompe. Hein,
c'est oui, c'est à peu près ça, oui. Il se récupère. Ouais.
Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'éthologie?
Or, c'est l'étude du comportement animal, et les éthologues aiment bien aussi parler des comportements humains.
Bonjour Georges Chapoutier.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, docteur en philosophie, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous avez publié également un livre absolument passionnant chez Odile Jacob, Sauver l'homme par l'animal. Bonjour Yolaine de la Bigne.
Bonjour Ali.
Amie de l'émission désormais, hein, régulièrement, vous êtes journaliste, directrice et fondatrice de l'association L'Animal et l'Homme, et vous publiez chez Le Duc, Mon année zéro souffrance animale, très très instructif. Alors Michel Kreutzer, c'est dans votre petit village du centre-Val de Loire, c'est ça?
Oui, c'est ça, dans le Loir-et-Cher,
voilà,
à Montoire.
Que vous
exactement.
Croisez pour la première fois un animal qui présente tous les caractères de la folie. C'était il n'y a pas si longtemps, vous aviez 5 ans, et ça se passait dans la forge du maréchal Ferrand, mitoyenne de votre maison. Et là, vous voyez un cheval qui s'emballe, qui lance des ruades, qui se cabre. Un animal devenu complètement fou.
C'est la furie, oui, et on me dit tout de suite de rentrer à la maison parce que le cheval est fou, et je me demande ce que ça veut dire folie. Ouais. Et après, on me parlera dans le village de personnes également qui sont un peu folles ou qui sont fous. Alors, ce mot-là a beaucoup de sens et s'applique aussi bien aux humains et aux animaux, et je l'ai toujours entendu comme cela.
Et cet animal qui semblait doté d'une force colossale rappelait certains animaux de la mythologie gréco-romaine. Cette mythologie qui a montré très souvent des animaux déchaînés comme frappés de folie.
Oui, la mythologie utilise le même mot pour désigner la folie des humains et des animaux. C'est qu'après seulement, comme on l'entendait avec Foucault à l'instant, qu'il dit que la folie, ça, il faut entendre le discours humain. Alors les animaux n'ont pas de discours. Alors est-ce qu'ils sont fous s'ils n'ont pas de discours? Est-ce qu'ils peuvent l'être? Voilà une interrogation.
Un mystère demeure. Comment expliquer dans ces cas de folie furieuse, chez l'animal notamment, ou chez les individus, chez les êtres humains, comment expliquer ce déploiement d'une force insoupçonnée? C'est mystérieux.
Pense pas trop mystérieux. La folie, elle est consubstantielle à la vie. Dans la vie, on voit aussi bien des humains que des animaux qui en font trop ou pas assez. Et dans ces cas-là, on s'interroge sur la normalité et on se dit que, ils sont pas tout à fait comme les autres, alors peut-être qu'ils sont atteints de folie. Donc, pour moi, la folie, elle est consubstantielle à la vie. Voilà.
Alors, j'aimerais qu'on définisse ce qu'est la folie modestement ce matin. Dans le Robert, la folie est un trouble mental, un égarement de l'esprit. Dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est l'état passager de troubles intenses ou d'exaltation excessive causée par une forte émotion ou un sentiment violent, fou, qui est hors de soi, notamment sous l'effet d'un sentiment violent que l'on ne peut ni contenir ni contrôler.
Oui, mais j'ai pris dans mon ouvrage un certain nombre de définitions de la folie pour voir un petit peu si toutes elles définissaient la folie de la même manière ou pas. Et au début, j'en suis venu à l'idée qu'il fallait pas partir en définissant. Mes collègues en sciences humaines m'ont appris qu'il y avait deux écoles de ce point de vue. Soit on définit au départ et puis on regarde quel est le sens, si ce sens est vraiment pertinent ou pas. Puis il y a ceux qui disent, chemin faisant, on verra bien quel est l'objet, on le définira petit à petit. Mais au début de la définir, la folie, ça serait de dire qu'on la comprend déjà, on sait ce que c'est. Or, si on ne sait pas ce que c'est, attendons un peu, suspendons notre jugement.
Et du point de vue du psychiatre que vous êtes, Christophe André, c'est quoi un fou ? Qu'est-ce que la folie ?
Moi, je suis sans doute le plus mal placé. Moi, j'ai jamais vu de fou. J'ai jamais vu de fou dans ma carrière. J'ai vu des gens déprimés, anxieux, schizophrènes, paranoïaques, malheureux, angoissés, mais je n'ai jamais vu de fou. C'est-à-dire à partir du moment, effectivement, où on observe avec des critères cherchant à aller au-delà du jugement global, les fous disparaissent.
Georges Chapoutier, vous avez lu le livre de Michel Kreutzer,
oui,
consacré à la folie animale, votre regard.
Alors je vois qu'il faut, moi je rattache ça à la complexité, c'est-à-dire que dans le monde vivant, il y a des cerveaux plus ou moins complexes, et plus le cerveau est complexe, plus le comportement est complexe, plus il y a des risques de dérive, de choses qui marchent pas bien. Et donc je serais tenté de dire que, j'aime pas beaucoup le terme folie non plus, mais parlons de pathologie, plus le cerveau est compliqué, plus il y a un risque de pathologie. En d'autres termes, chez des chats, des chiens, des animaux auxquels on passe, des chimpanzés, etc., les risques d'avoir de l'anxiété, des dépressions, etc., sont communs à ce qui se passe chez l'homme. Leur cerveau est très proche du nôtre. En revanche, la pathologie chez le ver de terre ou l'huître, ça je demande à voir.
Yolaine Delabigne.
Alors moi, je me dis que le fou des uns n'est pas le fou des autres. Et je reprends justement cet exemple du cheval, qui est évidemment, d'abord ça commence votre livre, et puis moi j'ai des chevaux, donc j'adore les chevaux. Et je pense qu'il n'était pas fou ce cheval, je pense qu'en fait il ressentait des choses que nous ne ressentons pas. Ça m'a toujours frappé quand vous êtes à cheval, les cavaliers qui souvent connaissent pas bien les chevaux disent « oui il est bête, oui il est vicieux », ça j'adore le terme. Moi j'ai jamais vu de chevaux bêtes et jamais vu de chevaux vicieux. Par contre je vois des chevaux qui, quand vous vous promenez avec eux, voient des tas de choses, commencent à s'agiter, etc. Et alors là, si vous comprenez rien, vous dites il est bête. Non, pas du tout. C'est qu'il a senti des choses que vous ne sentez pas. Et il faut pas oublier que les humains, il y a plein de choses qu'on sent pas. On n'est pas très doués dans pas mal de choses au niveau sensation. Et que les chevaux le sont mille fois plus que nous. Les chevaux ont une intelligence émotionnelle qu'on a oubliée. Ils ont une intelligence de la proie qu'on a oubliée. Et donc je pense que si ça se trouve, ce cheval, il était pas fou, mais il avait eu peur de quelque chose, d'un danger, etc. Puis les humains à côté de lui disaient qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est encore fou, etc.
À vous entendre, alors, si le terme le fou est si difficile à utiliser, pourquoi on l'utilise aussi souvent ? Moi, mes collègues à Nanterre, en psychologie, lorsqu'ils se réunissent et qu'il y a un collègue autour de la table qui, à un moment donné, dit un certain nombre de choses qui leur paraît aberrantes, mais ils disent « tu sais bien qu'il est fou ». Des collègues psychologues. Alors, vous qui êtes psychologue, vous n'hésitez à l'utiliser parce que vous êtes dans le cadre de votre discipline, vous utilisez un langage savant, mais spontanément, il y a des tas de personnes, on dit « mais c'est pas possible, si c'est ça, c'est qu'il est fou ».
Et je rappelle cette définition du fou dans le dictionnaire de l'Académie française, qui a perdu la raison, qui présente des troubles, des désordres mentaux, qui est atteint de démence.
Mais c'est quoi la raison? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça sera l'objet d'une autre émission, Yolaine Delabigne.
Qu'est-ce que c'est la raison?
C'est vrai que c'est aussi compliqué de définir la normalité que la folie. Mais c'est vrai que vous aviez raison, Michel Kreutzer. C'est vrai que moi, en tant que psychiatre, je dis jamais d'un patient qu'il est fou. Par contre, mes voisins, mes copains, des fois, ils disent non, mais il est fou, il est dingue. Enfin, et c'est vrai qu'on utilise le mot fou en sachant qu'il n'a aucune pertinence pour nous simplifier la vie face à des comportements ou des paroles incohérentes, imprévisibles, bizarres, inhabituelles. Il y a un peu de ça.
Georges Chapoutier.
Oui, je crois que c'est important de voir la différence entre la normalité et la pathologie. Effectivement, l'exemple caractéristique, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est très utile. Qu'est-ce qu'on ferait sans anxiété? Ainsi, si on n'avait pas peur à un certain moment du prédateur qui arrive, etc. Donc ça, c'est vrai pour tous les animaux. Il peut y avoir une anxiété excessive. Et donc là, on bascule en quelque sorte d'une normalité, anxiété normale, à quelque chose qui devient pathologique et qu'il faut soigner.
Revenons, Michel Kreutzer, aux folies animales. Pour vous, elles sont à la fois une fenêtre ouverte sur la singularité des animaux, mais aussi un miroir qu'ils tendent aux animaux humains.
Mais c'est-à-dire que dès l'instant où les humains voient des animaux, c'est une source d'inférence immédiatement. pendant longtemps, les naturalistes, les éthologues, ont cherché à voir dans le comportement humain qu'est-ce qui pouvait être naturalisé, en quoi c'était un prolongement de ce que l'on connaissait chez l'animal. Aujourd'hui, on a une tendance un peu contraire qui consiste à un peu hominiser les animaux. Et on regarde si dans tous les comportements humains, il n'y aurait pas des prémices chez les animaux. Vous voyez, dans un cas, on regarde vers le haut, on se dit « Ah, mais voilà, c'est un produit de la nature ». L'humain, dans l'autre cas, les humains regardent les animaux, ils se disent « Oh, ils sont un peu comme nous ». Voilà. C'est pas exactement la même perspective.
Et dans votre livre, vous montrez qu'entre l'animal et l'homme, la folie pourrait être l'une des choses au monde les mieux partagées.
Ah oui, puisque je vous disais tout à l'heure, c'est consubstantiel à la vie, pour moi, la folie. Mais je distingue, moi, la folie de la pathologie. Donc, c'est là où j'arrive à la fin de mon livre, c'est que les animaux en nature peuvent présenter des comportements qui nous paraissent fous, mais c'est sans doute au contact de l'humain et dans des conditions tout à fait particulières que des pathologies se déclarent. Quand on les met sous l'emprise des humains, dans des parcs, dans des zoos, ou bien même les animaux familiers, c'est pas simple pour un animal de vivre dans la faire de l'humain.
Yolaine de Labine.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me demande si la folie de l'animal, elle n'est pas juste quand les humains sont là. Parce que c'est ce que je décris, moi, dans mon livre. Quand un animal est enfermé dans un cirque et qu'un lion lui demande d'aller sauter dans des cercles en feu, quand un petit veau est séparé de sa mère à quelques heures et est enfermé tout seul quelque part, etc. Tout ce qu'on fait aux animaux, comment ne pas devenir fou quand un animal est à côté d'humains? Et je me demande si, en fait, c'est pas notre propre folie qu'on essaye de plaquer sur les animaux, mais l'animal réellement sauvage, l'animal réellement sans humain, l'animal peinard, je dirais, quelque part à vivre sa vraie vie d'animal. Y a-t-il de la folie, c'est un autre...
L'animal peinard, je sais pas, parce qu'on voit chez beaucoup d'espèces, des infanticides, des attitudes meurtrières. Par contre, ce qu'on trouve pas chez l'animal, c'est des féminicides. On m'a posé la question dernièrement, et j'ai pas trouvé, et c'est pas documenté. Donc, il y a des types de folie ou d'attitudes que l'on trouve chez l'humain qu'on ne trouverait peut-être pas chez les animaux.
Mais c'est de la folie, ça peut être des stratégies. Est-ce que c'est ça de la folie? Est-ce que le lion qui va tuer les petit de l'autre, est-ce que c'est de la folie? Vous en parlez dans votre livre, mais est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est une stratégie pour lui-même prendre le pouvoir sur les lionnes?
Le terme de folie est difficilement applicable à la vie sauvage et puis ça, en nature, parce que les animaux pour vivre, pour survivre, voilà, ils ont des attitudes que nous on considère comme tout à fait anormales si elles existaient chez les humains ou quand elles existent chez les humains. Donc, il est à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que j'ai distingué folie de comportement pathologique.
Georges, pour réunir ce que vient de dire Yoann de Labigne et Michel Kreutzer, je crois qu'il faut distinguer l'adaptation des animaux à l'environnement. Et donc, une espèce, elle est adaptée à quelque chose. Et tant que l'animal a un comportement qui est adapté à ce pourquoi il doit vivre, de son environnement, etc., on peut dire que c'est pas de la folie, c'est pas de la pathologie. Lorsqu'il y a opposition entre ce que l'animal peut vivre spontanément et puis un milieu particulier dans lequel il est mis, là, il peut y avoir des risques de distorsion et de pathologie plus forts. Et alors, pour ce que disait Yolaine de Labigne, il est clair que un animal qui est habitué qui est adapté à une vie entre guillemets sauvage ou à la vie de son espèce, lorsqu'on met dans une situation qui n'est pas du tout la sienne, chez des hommes qui vont le faire chanter alors qu'il veut pas chanter, etc. Là, le risque de pathologie est beaucoup plus gros que ce qui se passe dans la nature. Donc, je n'exclus pas le fait qu'il peut y avoir des pathologies dans la nature, des déviations, mais je pense que le traitement que l'homme impose aux animaux les rend davantage plausibles.
Georges Chapoutier, si je vous comprends bien, du point de vue de l'animal, en faisant un peu d'anthropomorphisme, nombre de nos comportements humains pourraient être jugés comme fous.
Ah bien sûr, oui certainement, certainement. Ça, avec les yeux de l'animal, on doit être des animaux très très particuliers. Alors sauf peut-être effectivement pour les animaux qui sont habitués à nous, le chat, le chien, qui
Ils nous trouvent très secoués quand même. Dans l'ensemble.
Mais disons que pour un animal qui sort de sa vie sauvage, l'homme, il doit avoir beaucoup de mal à s'adapter au comportement humain. Certainement.
Mais regardez, la plupart des animaux maintenant domestiques sont obèses, sont anxieux. Regardez, Eric Baraté, il vient d'écrire un livre sur la culture féline sur les chats. C'est très intéressant. Au XVIIIe siècle, les chats étaient tellement martyrisés par les humains qu'ils n'aimaient pas les humains, donc on disait « Oh, le chat, il n'est pas sympa », etc. Il est devenu de plus en plus sympa parce qu'il est devenu un chat de compagnie. Et aujourd'hui, on est tellement accro sur nos chats qu'il appelle ça des chats-chiens. Ce sont des chats qui ne sortent plus, qui ont plein de jouets, qui sont câlinés et brossés toute la journée, qui ont des harnais, qu'on sort en laisse, etc. Et ben, comme par hasard, il commence à y avoir des psys pour chats. Maintenant, on leur donne des médicaments aux États-Unis parce qu'ils ont l'anxiété de la séparation, ce qui n'existe sait pas chez les chats. Donc ils commencent à être complètement angoissés quand leur humain part travailler, etc. Et ils ont les mêmes problèmes qu'ont nos chiens. Les chiens errants au XVIIIe siècle, ils avaient pas de problème, hein. Ils étaient pas obèses et anxieux. Donc je pense que quand même, on peut pas s'empêcher, nous les humains, de rendre un peu ma boule nos enfants, nos animaux, nos amoureux.
Le XVIIIe est intéressant, justement, parce qu'au XVIIIe, on met les canaris en cage. Bon, ça change pas pour les canaris qui ont été domestiqués par les humains, mais on veut leur apprendre à chanter des mélodies humaines, ce qui ne se fait plus. Et on utilise un petit appareil qui est la serinette. Et les humains, à cette époque-là, trouvaient que les canaris devaient être très heureux parce que chanter des mélodies, siffloter des mélodies qui étaient des mélodies humaines, ça quand même leur donnait un statut qui était autre, n'est-ce pas? Et il a fallu se rendre compte que finalement, les canaris, quand ils ont le choix, ils apprennent pas du tout ces mélodies humaines, mais ils apprennent des chants de canaris pour se rendre compte que c'était pas ça qui était le plus adapté. Pendant, on pensait que c'était plus beau pour eux et qu'ils devaient être plus heureux. Vous voyez, donc on se faisait déjà des inférences sur ce que c'est qu'être heureux pour les animaux. Et ce qui était être heureux, c'était ressembler aux humains, bien sûr.
Question de Marie-Laure Zonshein, de Femme Actuelle.
Alors prenons un éléphant. Non, il gambade pas l'éléphant. Je cherchais. Il se met sur sa trompe. On le voit sur la couverture du livre. Voilà, qui est tranquille en Afrique. Voilà, avec des grands espaces. Ouais. Et son cousin, qui malheureusement est en captivité en région parisienne dans un cirque. Qu'est-ce qu'on peut voir finalement de l'évolution, alors des pathologies, pour reprendre le terme de Georges Chapoutier, sur cette espèce animale qui est la même, mais finalement qui n'a pas eu le même destin et qui va évoluer complètement différemment. Est-ce que, par une explication que vous allez peut-être nous développer, la vie de l'un influe encore sur la vie de l'autre? Quelles sont les traces laissées par chacun?
Alors, je pense pas que la vie sauvage en nature soit toujours quelque chose qui soit particulièrement enviable. Bien. Maintenant, la vie, dès l'instant où on met un éléphant dans un enclos, on le voit se promener de long en large, etc. On voit des balancements d'une patte sur l'autre. On se doute que cet animal, immédiatement, quand on voit ça, il est pas très à l'aise. Il vit mal cette situation. Donc, il suffit de regarder le comportement, et Dalila Beauvais a fait toute une liste comme ça des comportements qui, selon chaque espèce, montrent que cette espèce peut avoir de l'anxiété ou souffrir de la situation de mal-être dans laquelle elle se trouve. C'est le mal-être qui souvent nous permet de voir qu'est-ce que c'est qu'une situation où le mal-être n'apparaît pas. Tout à l'heure, on parlait du comportement normal et pathologique. Quand Guilhem, Foucault aussi, on dit c'est à partir de ce qui nous paraît anormal que l'on peut définir ce qui est normal. Et non pas l'inverse. C'est pas le normal qui nous permet de dire c'est anormal, c'est plutôt l'inverse. C'est la démarche inverse. Alors les animaux, quand ils sont dans la sphère de l'humain, bah, oui, effectivement, ils présentent des comportements que ne présentent pas les animaux en nature. Ce qui ne veut pas dire que les animaux sont au mieux toujours en nature.
Pour les éléphants, vous rappelez d'autre part que les éléphants, c'est parmi les animaux entre guillemets les plus intelligents, avec les grands singes, avec les dauphins, etc., etc. Donc pour les éléphants et pour d'autres animaux, il faut bien distinguer quand même ceux qui ont été violemment prélevés dans la nature. Et là, je pense qu'il y a des troubles qui peuvent être extrêmement violents quelquefois. Et puis ceux qui sont nés en milieu humain, alors je dis pas que c'est parfait, hein, loin de là. Je dis pas qu'il est nécessaire que les animaux naissent en milieu humain, ils sont mieux dans la nature. Mais je pense que l'animal qui s'adapte à l'homme depuis qu'il est tout petit a moins de troubles, a priori, que l'animal qui est prélevé brutalement dans la nature et mis dans un milieu qui n'est pas le sien. Donc ça, il faut bien distinguer les deux choses.
Oui, bah, pour les éléphants, faut rappeler que notamment, par exemple, les éléphants qui, dans le tourisme, vous savez, qui portent les touristes en Asie, faut savoir comment. En fait, on veut casser l'éléphant, c'est le terme, hein. Donc, quand il est petit, on le met dans une cage et on le bat. On le bat jusqu'à ce qu'il soit cassé. Un éléphant, ça a énormément de tempérament. Ça fait peur parce que c'est très fort. Donc tant que vous l'avez pas cassé, c'est pour ça que on peut plus avoir d'éléphants dans les cirques. Donc ça porte bien son nom. Un être vivant qui est cassé, bah forcément il est en miettes, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours avec des pics. On leur donne des pics. Ils sont attachés, etc. Parce que sinon ils tuent quasiment tout le monde autour d'eux, tellement ils sont devenus fous. Donc en effet, là on peut parler de folie dans la douleur, en fait.
Oui, c'est sur le fait aussi qu'il y a beaucoup d'études également sur la personnalité animale, c'est-à-dire le fait qu'un animal n'est pas l'équivalent de son voisin, qui a toute une histoire personnelle. Alors il y a des tests de personnalité chez l'homme, ça je pense que notre ami psychiatre en parlera beaucoup mieux que moi. Il y a il y a le Big Five chez l'homme, on distingue 5 traits principaux. Il y a des choses équivalentes chez les chats, chez les chiens, et ça a été fait récemment chez les éléphants, justement en Asie du Sud-Est, où on a montré que on pouvait résumer la personnalité à 3 grands traits. Donc il y a des personnalités très particulières qui sont étudiées aussi chez les éléphants.
Grâce au cornac. Hein.
Grâce au cornac. On pose des questions au cornac et on fait le listing.
Christophe André.
Oui, oui, mais c'est vraiment passionnant ces réflexions, parce que pour revenir aux animaux domestiques, on parlait des chats obèses ou des chiens qui ont des troubles de l'attachement, etc. C'est vrai que parfois quand même l'animal c'est un miroir pour nos propres problèmes. C'est-à-dire les animaux obèses dans une société où beaucoup d'humains sont en surpoids du fait de la sédentarité, les animaux qui souffrent d'être enfermés en appartement dans une société où on ne fait pas assez d'activité physique. Donc ils sont aussi un marqueur de des errements que nous avons. Alors là, je ne sais pas s'il faut parler de folie ou disons de mauvaise hygiène de vie par rapport au quotidien.
Michel Kretzer.
Oui, là, on aborde en même temps des questions qui sont très intéressantes parce que en psychologie, dans les études de psychologie, oui, il y a les études de psychologie générale et puis il y a la psychologie du particulier, oui, du singulier, qui est celle de la clinique. Alors, votre question sur les éléphants, en quoi les éléphants en Afrique ou les éléphants en Asie et les éléphants dans les zoos vont se différencier, finalement, on voit que chaque espèce est dans chaque espèce, chaque individu va présenter ses dysfonctionnements ou présenter son mal-être d'une manière qui lui sera éventuellement particulière. Ça, c'est le particulier, le singulier. Mais ça n'empêche pas le particulier, le singulier, de voir des processus qui sont tout à fait généraux, l'anxiété, la fuite chez un très grand nombre d'espèces, et de se placer dans une perspective de continuité, discontinuité avec les humains. C'est pour ça que dans cet ouvrage, je parle d'une psychiatrie générale, qui pourrait être une psychiatrie où on rechercherait ce qui est commun aux humains et aux espèces animales entre elles, et en même temps, une psychologie ou une psychiatrie qui serait celle du singulier, du particulier, chaque espèce, chaque individu vivant dans son propre monde et présentant ses folies ou se présentant ses dysfonctionnements particuliers.
Oui, pour continuer ce que disait Christophe André, je pense qu'en fait, on est dans un tel ego que être bien dans sa tête, ne pas être fou, c'est être à sa place. Être bien dans sa tête, c'est on a son rôle et on sait où on va, on sait pourquoi on est là. Et en fait, on colle sur les animaux un truc qui n'est pas fait pour eux. Et pourquoi ces animaux sont obèses ou tout ça? Parce que je vais le surnourrir, parce que c'est mon bichon, c'est mon petit amour à moi, c'est mon petit bébé. Non, c'est pas un bébé, c'est un chat. C'est moi, ça me frappe aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois trop aimer l'animal, en fait, c'est de la maltraitance. On veut les
mettre
avec
ça,
les chevaux,
hein.
C'est incroyable. Vous avez des gens qui passent leur temps à leur faire des tresses et à leur donner des friandises, mais un cheval, il a envie d'être sale, de s'amuser dans la boue et d'être peinard dans un pré. C'est ça qu'il a. Si vous aimez votre cheval, faut pas le brosser 4 fois par jour. Ça lui fait pas plaisir, quoi. Et en fait, on est trop dans l'ego. Je pense aussi, c'est ça notre folie humaine. Être toujours vouloir faire des autres ce qu'on a envie qu'ils soient.
Jean Chapoutier.
Oui, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'animal, il a, de par son espèce, un certain nombre de besoins, qui sont les besoins de l'espèce, et que si on heurte ses besoins, il va être de moins en moins, entre guillemets, heureux. Même s'il trouve un besoin affectif chez l'homme, etc., etc. Le fait qu'on l'éloigne des comportements spontanés de son espèce, c'est une source de souffrance.
La folie est-elle vraiment le propre de l'homme? On continue à répondre à cette question dans quelques instants. Un mot pour féliciter notre consoeur de France Inter, la romancière Clara Dupont-Monod, qui a remporté hier le prix féminin pour son beau roman S'adapter chez Stock. Clara Dupont-Monod, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans cette émission mercredi dernier. Allez, on écoute Camélia Jordana, qui interprète Facile, l'une des chansons préférées.
Je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante, quand de haut en bas s'attend, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, que je brille, que je m'en ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS.
Camélia Jordana interprétée facile.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
Et oui, on vient d'écouter Droupi, Christophe André. Hein, voilà, ça, le célèbre chien un peu neurasthénique. 10h31, la folie est-elle vraiment le propre de l'homme? C'est la question que nous posons ce matin. N'hésitez pas à témoigner du comportement plus ou moins fou de vos animaux au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Alors, la question des pathologies mentales chez l'animal pose la question du plaisir et de la souffrance animale. Michel Kreutzer, je rappelle que vous êtes éthologue et que vous publiez Folies animales. Vous le rappelez dans votre livre, chez l'humain, les souffrances et le mal-être constituent un terrain propice au développement de troubles comportementaux et mentaux. Il en va de même chez les animaux?
Alors, vous soulevez la question du plaisir et ça, vous me faites
et de la douleur.
Et de la douleur. Vous faites très plaisir en posant cette question. Pour la raison suivante, c'est que la plupart du temps, les naturalistes, peut-être à la suite de Darwin, ont regardé les animaux comme recherchant ce qui était utile pour augmenter leurs chances de survie et de se reproduire. Et voilà, c'est la grille de lecture principale. Mais Darwin avait offert une autre grille de lecture qu'ont délaissé les naturalistes depuis. C'était que les femelles choisissaient les mâles sur des critères esthétiques. Et ça, ils l'ont abandonné parce qu'elles avaient plus de plaisir de choisir tel individu que tel autre individu. Alors, les animaux, loin d'être des espèces qui choisissent des choses à faire pour des raisons utilitaires, choisissent aussi de se comporter de telle ou telle manière parce que ça leur procure du plaisir ou ça leur évite des déplaisirs. Et moi, la thèse que je défends, c'est qu'à côté d'une thèse qui serait « les animaux font des choses utiles », les animaux font des choses parce que ce sont des êtres hédonistes qui recherchent des plaisirs et évitent des déplaisirs. Donc, effectivement, si on est brimé dans sa recherche de plaisir, eh bien, il va s'en suivre un certain nombre de troubles, notamment des troubles comportementaux et des pathologies mentales.
Georges Chapoutier, je rappelle que vous êtes neurobiologiste et philosophe et que vous publiez Sauver l'homme par l'animal.
Oui, justement, pour enchaîner sur ce que vient de dire Michel Kreutzer, il faut quand même dire qu'ici on parle sous animaux de type vertébré. Oui. Hein, parce que, bon, nous n'allons pas trop chercher de plaisir. Il y a peut-être hein, chez le ver de terre ou chez l'huître.
Qui sait?
En revanche, les vertébrés ont un système nerveux qui est très semblable au nôtre, qui est construit sur le même modèle. Hein. Ils ont des structures, justement, qui sont responsables des émotions, du comportement émotionnel, ce qu'on appelle le système limbique, qui est absolument, pas identique, mais très proche, depuis les poissons jusqu'à nous. Et donc, il n'y a aucune raison de penser que ces animaux, qui ont le même système anatomique que nous, n'éprouvent pas des plaisirs comme nous.
Et des douleurs, sur la question de la douleur, des chercheurs ont injecté à des rats une substance qui provoque chez l'humain un ensemble de douleurs. Ces rats se réfugient plus souvent que les rats non injectés dans des abris à l'obscurité. Ce retrait ressemble à celui que les humains recherchent en cas de mal-être quand on recherche un lieu calme et sécurisant pour limiter son anxiété.
Tout à fait. Alors il faut savoir quand même que le repli dans un endroit sombre, les rongeurs, leur façon de se défendre, c'est de se mettre dans un endroit sombre, hein. Plus que les hommes quand même. Donc, bien sûr, oui, comme ils ont un aspect désagréable, ils vont chercher à se mettre dans un endroit où ils peuvent se reposer, où ils peuvent combattre leur douleur, bien entendu. La douleur, le vécu de la douleur, il est identique chez tous les vertébrés.
Yolaine Delabine, autrice de Mon année zéro souffrance animale.
Moi, je pense que le plaisir est partagé par absolument tous les êtres vivants. Et je pense qu'un jour, on découvrira que les vers de terre et les huîtres cherchent le plaisir parce que c'est la vie. Si vous n'avez pas de plaisir, vous n'avez pas envie de vivre longtemps. Hein. Et on l'explique notamment sur tout ce qui est sexuel. S'il n'y avait pas eu d'érotisme, de sexualité, etc., bah, vous n'avez pas vraiment envie de faire des enfants. Excusez-moi, surtout pour la femelle, c'est pas toujours très marrant. Donc, elle fuirait les mâles et elle voudrait pas. Et en fait, on se rend compte monde. Moi, je trouve que le sujet de la sexualité est passionnant sur les animaux, et notamment de l'homosexualité. En fait, dès le 18e, on sait qu'il y a eu des homosexuels, notamment chez les hannetons, etc. On sait maintenant qu'il y a plus de 400 espèces qui sont homosexuelles. Et alors, au début, on s'est dit, oui, mais c'est forcément utilitaire, parce que quand même, les animaux, alors, c'était, les cygnes noirs étaient entre mâles, parce que c'était plus facile de garder les petits, etc. Et puis, on s'est rendu compte que, ben non, c'est aussi pour le plaisir. Vous avez des tas d'animaux qui sont homosexuels parce que c'est bon. Et on a vu notamment les bonobos, éternellement les bonobos, mais il y en a plein d'autres. Et ça, je trouve que c'est une vraie une de toutes les révolutions que tous ces messieurs qui sont là sur ce plateau sont en train de découvrir depuis une vingtaine d'années, c'est que le plaisir, il est partagé par tout le monde parce que c'est pour ça que vous avez envie de vivre.
Et l'homosexualité qui a longtemps été considérée comme une pathologie mentale.
Il n'y a rien de plus naturel, en fait. Il n'y a rien de plus naturel. Et on se rend compte que les animaux, parfois, sont homosexuels uniquement parce que c'est bien. Ils sont bi, la vie est belle, quoi.
Je voudrais intervenir sur les fameux bonobos qui sont assez fascinants parce qu'ils règlent tous leurs conflits par le sexe.
Ouais.
Alors, j'ai coutume de dire que dans l'espèce humaine, on peut à la rigueur s'en inspirer dans un couple, on peut régler un conflit par le sexe dans un couple, mais qu'à la Chambre des députés, je vois ça assez mal.
Michel Kretzer, on a évoqué tout à l'heure les pathologies de l'attachement. De nombreuses recherches montrent que la séparation entre la mère et son petit peut provoquer peut avoir un retentissement dans la vie adulte de l'animal. Des chercheurs ont observé des manifestations de stress, d'anxiété ou de dépendance accrues aux substances addictives.
Oui, alors spontanément, les animaux recherchent des substances addictives. Alors, non seulement... Et parfois, ça entraîne quand même chez eux des troubles viscéraux. Donc, il y a un mal-être... Mais ce mal-être, il est compensé sans doute par le bien-être qu'ils éprouvent. Quel est l'imaginaire de ces animaux dans ces situations? Je ne sais pas, mais on pourrait imaginer qu'ils explorent des états mentaux qui ne sont pas habituels chez eux et que c'est une découverte. On explique toujours que les animaux sont curieux des milieux dans lesquels ils vivent et les explorent. Mais on pourrait imaginer qu'ils explorent aussi certaines situations mentales grâce à ces substances addictives.
Sur les pathologies de l'attachement?
Alors l'attachement, effectivement, vous évoquez l'attachement entre la mère et les petits, mais il y a bien d'autres sources d'attachement. Il y a les sources d'attachement des individus à leur groupe, des individus, des amitiés entre individus qui participent à des alliances. Donc, les troubles de l'attachement sont un des troubles sans doute les plus fréquents qu'on peut rencontrer dans les situations où des animaux vont présenter des pathologies. Je reviens sur la question du plaisir tout à l'heure. Effectivement, mais Georges le sait bien, il suffira de trouver des circuits dopaminergiques et des libérations d'opiocéendogènes chez des invertébrés pour se dire, ah là, il y a sans doute des circuits qui leur servent à éprouver du bien-être. Et d'autres circuits, peut-être pour l'attachement aussi, puisqu'on sait quelles sont les bases neuro- et pharmacologiques qui permettent l'attachement.
Chez les mammifères. Oui. Chez les mammifères, il y a une hormone très commune qui s'appelle l'ocytocine. Oui. Chaque fois qu'il y a un attachement entre une mère et son enfant, entre deux personnes, etc., il y a des décharges d'ocytocine. Maintenant, pour les invertébrés, il peut y avoir des mécanismes similaires, pas nécessairement avec les mêmes molécules. Ça, la comparaison n'est pas toujours légitime, par exemple, entre ce que fait une molécule chez un invertébré et chez une araignée.
Georges a un blocage avec les vers de terre.
Très clairement.
Sur le divan, Christophe André, vous parlez des vers de terre avec Georges.
Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Oui, et parmi les plaisirs, alors c'est passionnant à lire dans votre ouvrage, ils consomment des psychotropes naturels. Oui. Les plantes, les champignons, ça y va.
Oui, il faut des détours même pour aller les chercher. Donc ça montre bien qu'ils les recherchent, qu'ils ne sont pas ça sur leur passage, et ils ont goûté une fois, voilà, et puis ils repassent là, ils y regoutent. Non, ils ont pris goût à cela.
Et c'est vrai que beaucoup d'animaux aiment consommer des plantes riches en alcaloïdes, qui ont notamment des effets euphorisants.
Oui, et que les humains utilisent aussi dans des rituels qui sont liés à des activités du groupe.
Pourquoi les animaux recherchent-ils ces effets psychoactifs? Pourquoi ce goût pour la défonce chez les jaguars d'Amazonie ou les mouflons sauvages des montagnes rocheuses? Je sais que les jaguars sont très friands d'une liane aux effets hallucinogènes. Comment on explique ce goût-là?
Le goût pour quelque chose de nouveau et qui va les mettre dans un état où ils vont se sentir éventuellement bien, qui est un état un peu inhabituel, et la curiosité peut-être, vous disiez, de découvrir en eux des états mentaux qui sont inhabituels et qui leur font découvrir, explorer d'autres facettes d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas.
Oui, c'est le plaisir.
Voilà, c'est le plaisir.
Un exemple encore plus clair que les alcaloïdes, c'est l'alcool. Les fruits, tous les fruits qui mûrissent donnent de l'alcool. Il y a des quantités d'animaux qui vont consommer ces fruits alcoolisés.
Oui, et puis il faut pas oublier, comme vous le disiez tout à l'heure, la vie dans la nature, c'est dur. C'est pire que la vie de bureau, c'est pire que d'aller au boulot. Donc le jaguar qui décide de temps en temps de se mettre un peu la tête à l'envers pour se détendre et pour penser à autre chose qu'à la chasse, qu'à la rareté des proies, qu'à la compétition pour le territoire, ben on peut aussi imaginer. Alors faut pas faire d'anthropomorphisme, on est d'accord, mais c'est pas simple de vivre dans la nature, je pense, qu'on soit prédateur ou qu'on soit proie, c'est stressant.
Maintenant, allez, ce plaisir, il y a un prix à payer, c'est éventuellement l'addiction. Ouais. Et ça...
Oui, mais le risque est un petit peu moindre quand même, parce que les fruits qui mûrissent, il n'y en a pas partout. Le risque d'addiction, il existe, mais il est quand même beaucoup moins fort que dans l'espèce humaine.
On ne trouve pas de dealer dans la savane. Hein. Dans quelques instants, on continue à explorer la folie chez l'homme et chez l'animal, juste après les choses presque vues. Non, les choses vues, c'est Éric Libiot. Les choses vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Je deviens fou et j'ai rien pris. Les choses vues,
ça, c'est ce qu'on dit.
De Christophe André.
Je l'avoue, j'ai tué beaucoup d'animaux dans ma vie. Ah et bon? Parfois de façon cruelle. Je me souviens qu'un jour, petit garçon, face à une énorme araignée que j'avais peur d'écraser, j'étais allé chercher une bombe insecticide pour lui pulvériser dessus. En assassin froid, j'avais observé sa mort. Sous la douche toxique, elle avait d'abord cherché à fuir, puis avait commencé à zigzaguer, à mal coordonner ses mouvements de pattes avant de se recroqueviller pour mourir. Je venais de découvrir ce qu'était un poison neurotoxique, et j'étais un peu remué du mal que j'avais fait. À ma décharge, les temps étaient durs pour les animaux quand j'étais petit garçon, notamment pour le cochon de la ferme voisine qu'on égorgeait et transformait en boudin chaque hiver. Tout le monde faisait ça. Bah, c'est devenu beaucoup plus rare aujourd'hui, mais la pratique existe encore, très réglementée. Par exemple, cet été, nous étions en vacances au Pays Basque, à côté de chez un monsieur sympathique qui élevait un cochon, très sympathique lui aussi, que nous avions surnommé Edmond. Et chaque jour, nous apportions à Edmond nos épluchures de légumes et de fruits. Comme je demandais un jour au monsieur comment s'appelait en vrai son animal, il eut l'air surpris et me répondit « il s'appelle le cochon ». Et effectivement, quitte à transformer en jambon et en boudin son animal de compagnie, autant ne pas trop s'y attacher. Il y avait aussi un dernier truc à l'époque, devenu totalement désuet, et c'est tant mieux, parce que c'était un peu cruel aussi finalement, qu'on retrouvait dans beaucoup de cuisines des quartiers populaires, des cages avec des oiseaux. En général, des canaris ou des perruches. Les pauvres devenaient un peu perturbés, ne pouvant jamais voler, mais seulement sauter d'un perchoir à un autre. Perturbés comme la poule Zazou de Charles Trenet.
Je suis un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mélie, viens donc voir, je croyais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute là, elle fait.
C'est la poule Zazou. Bon alors, quand même, on en a fait des progrès dans nos rapports avec les animaux. Leur maltraitance a reculé de manière incroyable, et alors qu'elle était la règle, elle est désormais une anomalie. Mais nous n'allons pas en rester là. Nous leur faisions du mal jadis à ces animaux, non seulement pour satisfaire nos besoins alimentaires, mais aussi pour notre bon plaisir. Sans le vouloir, simplement parce que c'était notre culture. Par exemple, en tant que gars du Sud-Ouest, j'ai mis longtemps avant de m'interroger sur la nécessité d'aller au corrida et de manger du foie gras. J'y ai renoncé à contre-cœur et à grand-peine, mais finalement, devant l'évidence de la souffrance des oies et des taureaux, je n'arrivais plus à justifier mon plaisir gastronomique ou mes émotions esthétiques. Et puis l'autre jour, je suis tombé sur un article à propos des chats. Ce sont des grands tueurs de petits oiseaux de nos jardins, des assassins de mésanges et de moineaux, dont ils contribuent à faire baisser la population, aux côtés, certes, des insecticides et de la pollution. Alors je me suis dit, tiens, voilà encore un truc. Pour notre petit plaisir d'avoir un chat, nous nous rendons complices d'un grand carnage de passereaux. Nous avons encore un peu de progrès à accomplir avec les animaux. Ne plus les maltraiter, ne plus les manger, puis renoncer à nos petits plaisirs qui pourraient leur nuire. Nous y arriverons. Et il me semble clair qu'animaux et humains vivront un jour en bonne entente. Ce sera un peu comme dans la Bible, dans le livre d'Isaïe. Le loup couchera à côté de l'agneau, le léopard à côté du chevreau. Ce à quoi Woody Allen rajoutait « Oui, mais il y en a qui dormiront un peu moins bien que d'autres. » Je confirme, araignées, pinsons, cochons, oies grasses et poules azous, nous allons vers le mieux, mais on y va lentement. Alors, ne baissez pas la garde trop vite et ne dormez que d'un œil en attendant.
Le regard de Hélène Delabigne.
Ben c'est vrai qu'on y va lentement quand même, parce que la souffrance animale a absolument explosé. Essentiellement pas parce que nous sommes plus cruels qu'avant, je crois qu'on l'a toujours été, que c'est un peu une définition de l'être humain, mais parce que la technologie nous permet, par l'internet, par les fusils et toutes les armes à distance, etc. On estime à peu près qu'il y a 1000 milliards d'animaux terrestres et marins tués chaque année, et toutes les 2 secondes, par exemple, il y a un animal tué dans le monde pour sa fourrure. Donc non, il y a du boulot.
Vous pouvez podcaster et partager les choses vues de Christophe André sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, nous verrons si les animaux peuvent être touchés par la dépression, la bipolarité ou encore la schizophrénie, juste après Arlo Parks qui interprète Too Good.
Touch the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show. Through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can.
Arlo Parks interprétait Too Good.
Une cigogne du nom de Jasper perdit les pédales.
Grand bien vous fasse.
Et tenta de garder la bébé.
Ali Rébilly sur France Inter.
10h48, la folie est-elle vraiment le propre de l'homme? C'est la question que nous posons ce matin à nos invités. Je vous propose d'écouter le vétérinaire Jacques Dens.
La dépression touche aussi les animaux. Alors, c'est un animal qui est en dessous de la surface, qui n'est plus réactif et autres. Et quand il a des réactions, elles peuvent être très très dérangeantes pour les maîtres. Ça peut se traduire par de l'agressivité, des marquages territoriaux, des griffades chez les chats contre les murs, etc., etc. Le chien, qui est un animal social, lui, va vraiment exprimer sa dépression parce qu'il ne sera pas réactif ou il réagira de manière totalement anormale à des stimulus ou des stimuli qu'on va éventuellement provoquer, par exemple dans les périodes de jeu. L'animal dépressif, il va pas avoir envie de jouer. Il va confondre aussi bien la tristesse et la joie. Ça va être quelque chose de relativement mélangé chez lui et va pas réussir effectivement à sortir de ça. C'est vraiment un diagnostic médical. On va avoir différents stades d'anxiété et ces anxiétés, à un moment donné, quand elles vont déborder la capacité de réactivité de l'animal, elles vont se traduire par un retrait sur lui-même, une intériorisation et une dépression.
Excellent reportage diffusé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté en janvier 2020. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse plus précisément à l'anxiété et à la dépression chez les animaux. Christophe, un point pédago très rapide, la différence entre l'anxiété et la dépression ?
Ah, l'anxiété, c'est basé sur la crainte, la peur. Alors, chez l'humain, l'anxiété se caractérise par l'anticipation. J'anticipe que des problèmes pourraient arriver, puis l'exagération des problèmes éventuels. Chez l'animal, je suppose que ça doit ressembler à une crainte d'affronter les situations nouvelles, à une peur de tout ce qui est inhabituel. La dépression, c'est plutôt un repli. C'est la pathologie de la tristesse excessive. Le repli, le retrait, le désengagement, la perte de capacité à ressentir du plaisir, notamment, qu'on appelle l'anhédonie.
Georges Chapoutier, l'anxiété et la dépression sont des phénomènes très répandus chez les animaux. L'anxiété, c'est un phénomène de défense très fréquent chez les animaux. Chez les animaux, notamment, qui naissent pour être des proies, comme les souris.
Par exemple, les souris, effectivement, les souris ont le triste privilège de naître comme des proies, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent très très vite, mais l'essentiel des souris finit comme proie des renards, des éperviers, des serpents, etc. etc. Et du coup, pour se protéger, il y a des mécanismes d'anxiété très forts. Et la quasi-totalité des anxiolytiques qu'on utilise chez l'homme ont été mis au point chez les souris, il faut le savoir. Et donc, alors comme je disais tout à l'heure, l'anxiété, ça a un caractère normal. Et ça ne devient pathologique que quand ça prend une proportion excessive. Alors que la dépression, qui est, elle, est plutôt négative. C'est-à-dire que, autant l'anxiété peut être utile à dose faible, je suis en train de dire, pour la vie courante, autant la dépression, je pense que c'est assez négatif. Et donc la dépression, là, c'est déjà plus difficile à définir chez les animaux, parce que ça, chez l'homme, on voit bien ce que c'est.
Mais comment peut-elle se manifester chez un chat ou chez un chien?
Alors, refus d'aller manger, rester dans un coin, etc. Des signes qui correspondent à ce qu'on trouve chez l'homme, d'ailleurs, ce que le vétérinaire disait tout à l'heure. Ça se voit aussi assez facilement des animaux enfermés dans des jardins zoologiques, qui restent dans un coin, qui font des stéréotypes, qui bougent plus, etc., etc. Donc, en revanche, chez d'autres animaux, par exemple la souris, par exemple, comment définir la dépression? Comment dire si une souris est dépressive? Et en fait, là, on recourt à la pharmacologie. En tant que si cet effet-là est compensé par un antidépresseur, on va dire, ah bon, on suppose que c'est une dépression.
Nina nous écrit sur notre page Facebook que je ne parlerai pas de folie, mais de dépression, d'anxiété, de mal-être. Tout cela ressenti par Foxy, l'une de mes deux chiennes, après le décès de Miss You, mon autre chienne. Foxy passait beaucoup de temps couchée en rond devant le portail, ou bien elle faisait des trous dans le jardin, et le reste du temps, elle restait collée à moi, elle faisait peine à voir. Après quelques mois, quand j'étais prête émotionnellement, j'ai adopté un chien adulte et très rapidement, le comportement de Foxy est redevenu normal. On peut dire qu'elle a retrouvé la joie de vivre. Michel Kreutzer.
Oui, on voit la vie de relation ici, l'importance de la vie de relation. On s'est beaucoup posé de questions à propos de la folie ou des pathologies. Est-ce que c'était natif? Est-ce que les individus étaient prédisposés pour? Ou bien est-ce que c'est dans le cadre de leur vie, avec leur milieu, avec leur maître ou avec d'autres congénères, que finalement, à un moment donné, arrivent ces folies? Donc la vie de relation est très importante. On peut pas regarder un animal et dire il est fou sans regarder dans quel type de vie de relation il est. Et d'ailleurs, les comportementalistes, quand quelqu'un vient avec son chat, son chien, et explique que le chien a des problèmes, ou le chat a des problèmes, il s'intéresse aussi à la manière dont le traite son maître ou la vie domestique qu'il a habituellement.
Yolaine de la Bigne.
Là où c'est très compliqué, c'est que ça dépend non seulement de chaque individu, mais de chaque race. Par exemple, je prends les chiens, vous prenez les malinois, qui n'ont pas d'anxiété quand ils sont avec les policiers qui ont un métier de malade quand même. C'est quand vous voyez l'entraînement d'un malinois, il faut quand même le faire pour qu'ils aient pas d'anxiété. Par contre, le même malinois, il a plus son maître, il reste tranquillement à la maison, là il devient complètement dépressif et anxieux parce qu'il s'ennuie, parce qu'il bosse plus, parce qu'il est fait pour ça et que c'est ça qu'il aime. Donc en fait, c'est hyper compliqué de savoir comment rendre un tel chien et telle race de chiens heureux et sans anxiété.
Sait-on si certains animaux peuvent être frappés de troubles bipolaires? On retrouve chez beaucoup d'animaux des comportements binaires, Georges Chapoutier.
Alors oui, d'abord c'est très difficile à dire, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un trouble bipolaire chez l'animal? Mais effectivement, alors il y a un psychiatre belge qui s'appelle Demaret, qui a suggéré l'idée que quand il y a les mêmes bases génétiques, on peut trouver des comportements communs. Et alors, lui, il assimile les troubles bipolaires pathologiques chez l'homme à des phénomènes bipolaires qui peuvent être normaux chez l'animal. Par exemple, un animal va être très passif s'il est dans le territoire d'un autre, il va être plutôt anxieux. En revanche, il va défendre avec force son propre territoire. Il aura un comportement bipolaire très violent chez lui et très passif ailleurs. Donc, selon Demaret, ce sont probablement les mêmes clusters de gènes qui interviennent dans les troubles bipolaires chez l'homme. Et donc, il peut y avoir des clusters de gènes qui sont normaux dans le comportement des animaux et qui deviennent source de pathologie chez l'homme.
Christophe André, on peut rappeler à grands traits ce qu'est la bipolarité chez l'homme En quelques mots, de
oui,
façon c'est, schématique.
Bah, c'est une pathologie qui a tendance à être chronique sur toute la vie, qui est faite de déclenchements, de crises, soit de dépression, parfois assez profonde, de repli, de perte de goût pour l'activité, etc. Ou, à l'inverse, de négatif de la dépression, une période d'hyperactivité, avec une espèce d'euphorie presque combative dans laquelle on se met dans des situations problématiques.
Et on appelait la bipolarité psychose maniaco-dépressive.
Autrefois, on appelait ça psychose maniaco-dépressive.
Michel Kreutzer.
Oui, la question qui est posée, c'est celle aussi, y a-t-il des modèles animaux des grandes pathologies mentales et oui. comportementales des humains ? Alors, les généticiens font des sélections, aujourd'hui, pour chercher des animaux qui présenteraient des symptômes qui pourraient être similaires un peu à ceux des humains, comme Chapoutier le disait tout à l'heure, voir des traits de personnalité, et voir comment traiter ces symptômes. Est-ce que en traitant ces symptômes, ou en guérissant ces animaux, on est dans le même cas que les humains ? C'est là toute la question que se posent les généticiens.
Existe-t-il des animaux touchés par des formes de schizophrénie ? Alors, je rappelle que la schizophrénie n'a rien à voir avec l'image du fou à la double personnalité, à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le trouble psychotique, c'est un trouble psychotique où on perd le contact avec la réalité. C'est très schématique, hein, Christophe André.
Oui, et puis là aussi, même chez l'homme, c'est compliqué. C'est les symptômes qu'on appelle négatifs, du retrait, de la passivité, de la difficulté à s'engager dans des tâches, et puis des symptômes positifs. Alors là, certainement compliqué à déceler chez les animaux, oui. avec des hallucinations, des idées délirantes, etc.
Oui, ici encore, c'est très difficile de dire s'il y a de la schizophrénie en tant que telle chez les animaux. Il y a des modèles qui s'en sont rapprochés, soit par des traitements génétiques ou des traitements pharmacologiques des animaux. On a des signes, comme par exemple la difficulté à passer d'une tâche à une autre. Il y a un certain nombre de signes qui ressemblent à la schizophrénie humaine. Maintenant, dire que c'est de la schizophrénie, c'est très difficile.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, sur tous ces mots-là que vous décrivez, finalement, en vous écoutant, je me dis, mais... pourquoi domestique-t-on des animaux, ou en tout cas certains d'entre eux, lesquels faudrait-il bannir, dire à nos enfants non, on ne prend pas de hamster, non, on ne prend pas de serpent ou de poisson rouge ?
Alors donc, l'homme a dû essayer de domestiquer tous les animaux dans la préhistoire. Hein. Et il y en a quelques-uns à qui ça a bien marché. En particulier le chat et le chien, parce que pour des raisons à la fois d'adéquation et de sélection, on a des animaux qui s'adaptent bien à nous, le chien et le chat. Pour les autres, alors il y a d'autres animaux domestiques, il y en a d'animaux de compagnie vraiment très proches, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et donc, les animaux qui n'ont pas été domestiqués, ceux qui ont spontanément qui vivent à la vie sauvage, sauf qu'en particulier, il faut les laisser vivre dans la vie sauvage. Je suis contre les nouveaux animaux de compagnie, laisser les serpents vivre comme des serpents.
Oui, moi je suis absolument d'accord, c'est une espèce de mode là aussi d'égo, mais en fait un pauvre python qui est dans un espèce de terrarium de 50 cm de longueur, il peut pas être heureux. Alors je rajouterais quand même les chevaux, même si les chevaux ont été très martyrisés dans l'histoire de l'homme, je pense que le cheval est un animal quand même qui peut être très très proche de l'homme, mais une fois de plus quand on le laisse vivre comme un cheval normal. En fait il faut qu'on apprenne à respecter. Mais il faudrait qu'on se respecte entre soi, hein, entre humains. Donc, de même qu'on doit se respecter entre nous, on doit respecter les animaux avec qui on vit.
Michel, il y a une question actuellement qui est pas toujours considérée comme politiquement correcte, c'est celle des chats et des petits oiseaux en nature. Alors, quand on sait le nombre de petits oiseaux en nature que boulottent les chats tous les ans, et que les chats soient bien nourris à la maison ou pas, mais moi, dans mon quartier, je les vois, voilà, ils sont dans la rue, ils attendent, ils guettent. Alors, il y a les rongeurs, et puis il y a les petits oiseaux dans mon jardin, les rouges-gorges, les mésanges, ils sont là, ils les guettent, et ils en attrapent un nombre assez important tout au long de l'année. Alors, entre les chats et les petits oiseaux, comment on choisira ? Ça va être une question intéressante dans les années à venir.
Oui, je crois que la réponse, c'est qu'il ne faut pas avoir trop de chats au kilomètre carré.
Et surtout qu'il faut gérer son chat, ne pas le laisser sortir la nuit, le qu'il soit castré. Moi, je lui mets une collerette avec deux petits grelots et elle ne sort que dans la journée.
Ben, est-ce qu'elle est heureuse ?
Eh ben, alors, quand tu la vois, je peux dire qu'elle est heureuse. Hein. Elle est heureuse, mais mes oiseaux aussi sont heureux, monsieur.
Pour terminer,
donc, c'est un partage de bonheur.
Pour terminer en quelques mots, de nombreux auditeurs nous demandent si une grande partie des folies animales sont imputables aux humains. Michel Kreutzer, en guise de conclusion.
Pour moi, la folie, je vous le disais tout à l'heure, elle est consubstantielle à la vie. Donc, les animaux de toutes les espèces présentent des comportements exagérés ou pas assez de comportements dans certaines situations. Par contre, les pathologies mentales et comportementales, là, elles apparaissent et où elles sont favorisées dans la sphère où les humains mettent les animaux. Et ça potentialise les pathologies. Donc, c'est là qu'est une des questions les plus importantes. Posez, je distingue folie de pathologie de ce point de vue.
Merci beaucoup Michel Kreutzer. Je recommande vraiment votre livre « Folies animales ». C'est publié aux éditions Le Pommier. Je recommande également le livre de Georges Chapoutier, Sauver l'homme par l'animal. C'est publié chez Audit Jacob. Merci Yolaine Delabigne. Mon année zéro souffrance animale est publié chez Le Duc et vous reviendrez évidemment dans cette émission. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Thomas Chauvineau qui parlera de cuisine et d'histoire avec les youtubeurs Nota Bene et Gastrono Geek. Je vous retrouve jeudi pour évoquer le plaisir de lire Agatha Christie.